Vous écoutez les dossiers du FBI, paiement final, deuxième partie.
À peine quelques jours après l'explosion, les casinos de State Line offrirent une récompense de $250,000 en échange d'informations permettant l'arrestation et la comparution de l'auteur de la bombe.
On s'est adressé à tous les médias en espérant que quelqu'un nous appellerait.
Capitaine Ron Pierini.
On a mis sur pied une ligne téléphonique sans frais, accessible dans tout le pays. Ainsi, n'importe qui aux États-Unis pouvait nous appeler et nous fournir ses informations en échange d'une récompense.
La généreuse récompense permit de recevoir quelques milliers d'appels, mais on n'obtint malheureusement pas de pistes solides.
Quelques jours ont passé. Je dirais qu'il s'est écoulé 9 ou 10 jours. On avait des pistes, mais aucune d'elles n'était prometteuse. Les types qui avaient fabriqué et posé cette bombe étaient sans doute très liés entre eux. Il pouvait s'agir des membres d'une même famille, parce qu'on n'obtenait aucune information.
Les agents espéraient trouver un indice à travers les décombres qui leur permettrait d'identifier le coupable.
À la fin des 40 jours de recherche, on avait recueilli près de 50 kilos de la bombe qui, selon nous, devait peser plus de 350 kilos. On en avait donc environ un huitième. Les pièces qu'on avait recueillies étaient principalement des pièces en acier qui avaient résisté à la détonation.
Les pièces furent acheminées au labo du FBI à Washington dès qu'elles furent recueillies. C'était la première fois que les experts pouvaient vraiment analyser la bombe.
On a pu déterminer le genre d'interrupteur qui avait été utilisé. C'était des interrupteurs à mercure. On connaissait aussi le genre d'explosif. De plus, on avait trouvé des morceaux de carton, des éléments qui pourraient peut-être nous dire où et comment l'engin avait été construit.
L'examen en laboratoire permit aux agents de découvrir enfin quelque chose sur l'auteur de la bombe.
Une des premières choses qu'on a faites, ça a été de demander à un expert en métallurgie d'examiner les composantes de la bombe et de mesurer les chocs subis par les pièces de métal d'un point de vue métallurgique. On voulait qu'ils nous disent quel genre de choc la détonation leur avait fait subir. Ainsi, on saurait quel genre d'explosif avait été utilisé. La lettre de menace disait qu'il s'agissait de TNT, mais on devait malgré tout faire des vérifications. On voulait voir si ces dommages pouvaient avoir été causés par du TNT, ce qui n'était pas le cas. On a ainsi su quelque chose à propos de son auteur. Il nous avait menti dans sa lettre. Il nous avait menti pour capter notre attention.
L'auteur de la bombe avait utilisé de la dynamite plutôt que du TNT. En faisant croire aux enquêteurs que la bombe contenait du TNT, il leur avait fait craindre le pire.
Son plan était très élaboré. En examinant l'engin, on voyait bien que le type avait travaillé très fort et qu'il était très patient. Il n'avait pas construit cette bombe en un seul jour. Cette bombe avait demandé plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'efforts. Et le fait qu'il l'ait construite sans attirer l'attention sur lui indiquait, à mon sens, qu'il avait mis encore plus de temps à la faire.
Pour tenter d'en apprendre un peu plus sur l'auteur de la bombe, les agents demandèrent l'aide du service des sciences comportementales du FBI à Quantico. Les experts établirent que l'auteur de la bombe était dans la trentaine avancée ou le début de la quarantaine et qu'il s'y connaissait dans la façon de construire une bombe. Compte tenu de la complexité de l'engin explosif et de la teneur de la lettre, l'homme était vraisemblablement un égocentrique, convaincu de pouvoir déjouer les enquêteurs.
Il est difficile de dresser le portrait de l'auteur d'une bombe. Ce n'est pas comme pour un meurtrier qui laisse derrière lui des empreintes sur la scène du crime. La construction d'une bombe demande beaucoup de préparation. Quand vous tirez sur quelqu'un, vous posez un geste personnel, alors que pour un attentat à la bombe, vous quittez les lieux et n'avez pas à assister à la scène.
L'homme n'aimait pas être proche de ses victimes. Les agents soupçonnaient également que le mobile du crime n'était pas que le gain d'argent.
Était-ce un attentat terroriste? Quel était le but de ce crime en particulier? Était-ce seulement l'argent? Est-ce que ces gens étaient reliés au trafic de stupéfiants? S'agissait-il de membres du crime organisé, de la mafia? On ne croyait pas que le crime organisé aurait pu faire ça. On ne croyait pas que les trafiquants de drogue auraient pu commettre un tel crime non plus. Ces types n'aiment pas attirer l'attention sur eux.
Les enquêteurs étaient à court de pistes et l'auteur de la bombe n'hésiterait pas à recommencer. À Reno, à 65 km au nord de State Line, quatre autres casinos furent l'objet de menaces d'attentats à la bombe. Les enquêteurs fouillèrent les lieux mais ne trouvèrent aucune bombe. Une enquête ultérieure permit de découvrir que ces menaces n'avaient aucun lien avec l'attentat du Harvey's Casino. Les agents firent de nouveau appel à l'aide du public. Ils diffusèrent des descriptions des suspects basées sur les descriptions fournies par le gardien de sécurité des lieux.
On était submergés de milliers d'appels.
Au début du mois de septembre, les agents reçurent un renseignement intriguant. Trois ex-employés d'une usine de construction d'avions à réaction avaient déménagé à Reno juste avant l'explosion du casino. Selon le labo du FBI à Washington, certaines composantes électroniques utilisées dans la bombe ressemblaient à des pièces d'avion. Des ingénieurs en aéronautique avaient certainement les connaissances requises pour mettre au point un tel engin explosif. L'agent spécial Bill Jahnke.
Ils correspondaient à ce qu'on cherchait. Ils formaient un petit groupe. Ils avaient accès à du matériel explosif et possédaient une certaine expérience dans le domaine. C'étaient des suspects très prometteurs. On a passé plusieurs heures à enquêter sur ces types et à explorer des pistes qui s'étendaient à l'échelle du pays. On a consacré beaucoup de ressources pour enquêter sur ce groupe pendant 2 ou 3 semaines, avant de finalement l'écarter de notre liste de suspects.
Il s'agissait d'une autre impasse. Quant à l'auteur de la bombe, il gardait le silence. Résolu à trouver des pistes, les enquêteurs relurent toutes les informations reçues par téléphone depuis l'explosion. L'agent spécial Herb Hawkins dut analyser plusieurs milliers de notes. Le 1er octobre, une information en particulier retint son attention. La propriétaire d'un motel avait vu une camionnette blanche quitter son établissement de South Lake Tahoe une heure avant que la bombe ne soit laissée au casino. Or, grâce aux témoins oculaires, on savait que la bombe avait été livrée dans une camionnette blanche. Hawkins croyait qu'il ne pouvait s'agir d'une simple coïncidence.
En lisant ces informations recueillies grâce à les lignes téléphoniques, j'ai constaté qu'aucun des enquêteurs ne les avait remarquées. Ces informations dataient maintenant d'un mois. On devait absolument explorer cette piste.
Les agents interrogèrent la propriétaire du motel qui avait transmis les informations. Le 26 août, vers 4 heures du matin, elle avait entendu des bruits étranges provenant de l'aire de stationnement du motel.
Une fois réveillée, elle est allée voir par la fenêtre d'où elle a vu 2 ou 3 individus portant des salopettes blanches essayant de faire démarrer une camionnette blanche. Elle a noté le numéro de la plaque d'immatriculation pour s'assurer que c'était bien celui qu'elle avait noté sur la carte d'enregistrement de ses clients.
Le lendemain, elle avait appelé le FBI au numéro de téléphone transmis par les médias. Les agents constatèrent que le nom sur la fiche d'enregistrement du motel était un faux nom. Ils vérifièrent le numéro de la plaque d'immatriculation de la camionnette blanche auprès de la régie des véhicules de la Californie.
L'information qu'on a obtenue de la régie, c'était que le véhicule était enregistré au nom d'un certain John Burgess qui vivait à Clovis, en Californie, juste à côté de Fresno. Immédiatement, des agents de Fresno sont allés rendre visite à M. Burgess. Il voulait lui demander pourquoi sa camionnette s'était retrouvée à Lake Tahoe avec 3 hommes suspects à bord.
Burgess déclara aux agents qu'il ignorait de quoi il parlait. Il était bien propriétaire d'une camionnette blanche, mais c'était son fils qui l'utilisait le plus souvent.
On a été incapable d'obtenir des informations de la part de M. Burgess, si ce n'est le fait que son fils conduisait le véhicule et que celui-ci pouvait être impliqué dans la culture de marijuana.
Les agents interrogèrent alors le fils de Burgess à Fresno. Ils lui demandèrent ce qu'il faisait à Lake Tahoe à 4 heures du matin et pourquoi il avait mis un faux nom sur sa fiche d'enregistrement.
Le jeune homme a dit aux enquêteurs qu'il était allé à Lake Tahoe car il cherchait un endroit pour faire la culture de marijuana. Les agents savaient très bien que Lake Tahoe se trouve à 1900 mètres d'altitude. Ce n'est vraiment pas l'endroit rêvé pour la culture de marijuana en raison du climat de cette région. La raison qu'il leur avait donnée était donc plutôt suspecte.
Les agents soupçonnaient le fils de Burgess de mentir, mais ils ignoraient pourquoi. Ils ne le croyaient pas capable d'avoir fabriqué la bombe. À 18 ans, il n'avait assurément pas les compétences pour construire un engin d'une telle complexité. Les agents poursuivirent leur enquête à la recherche d'autres pistes prometteuses.
L'enquête de cet attentat n'en finissait plus. On a dû interroger plus de 400 suspects un peu partout à travers le pays.
L'explosion avait causé des dommages estimés à 3 millions de dollars. L'auteur de cet attentat devait absolument être arrêté avant qu'il ne construise une autre bombe. Malheureusement, les agents étaient à court de pistes. L'auteur de la bombe était inactif depuis plusieurs mois. Au mois de novembre, tous les agents sauf 16 furent renvoyés à leurs bureaux respectifs. L'enquête piétinait. Le FBI tenta alors une nouvelle approche.
Au début de 1981, on s'est dit qu'il serait peut-être temps d'augmenter la récompense. On l'a alors fixée à 500 000 dollars. Elle est ainsi passée de 250 000 à 500 000 dollars.
Même si un groupe très uni était responsable de l'attentat à la bombe, le FBI croyait que la perspective de toucher un demi-million de dollars serait assez séduisante pour obtenir des résultats.
Quand on a effectivement disposé de ces 500 000 dollars, on a demandé aux médias de diffuser la nouvelle. On a tenu une conférence de presse et ça a bien fonctionné.
Le pari du FBI porta fruit.
À peine quelques jours plus tard, on a reçu un appel. Un jeune homme avait appelé les agents du FBI de Fresno pour leur dire qu'on avait été sur la bonne piste, mais qu'on ne s'était pas arrêté sur la bonne personne. Il nous a révélé que ce n'était pas le fils de M. Burgess qui aurait dû nous intéresser, mais bien John Burgess lui-même. Selon cette source, c'était John Burgess, le père, qui était responsable de ce crime.
Cette hypothèse était plausible. Même si John Burgess n'avait pas exactement le profil d'un suspect, les agents n'avaient jamais pu s'expliquer pourquoi son fils se trouvait à Lake Tahoe au moment où la bombe avait été livrée. En l'espace de quelques jours, l'enquête se déplaça de Stateline au Nevada à Fresno en Californie.
Même s'il y avait déjà un bureau à cet endroit, on a ouvert un autre bureau et fait venir 30 ou 40 agents afin qu'on puisse se concentrer sur John Burgess. Personnellement, je croyais qu'on tenait le coupable. Il s'agissait d'une famille. L'homme avait deux fils qui pouvaient l'avoir aidé et qui ne voulaient pas la récompense. Ils avaient préféré garder le silence selon toute vraisemblance. Je suis parti pour Fresno avec beaucoup d'enthousiasme. Je croyais qu'on le tenait.
Le FBI soupçonnait John Burgess père d'être l'auteur de la bombe. Mais il devait trouver des preuves de sa participation dans ce crime pour pouvoir l'arrêter.
L'enquête portant sur John Burgess portait sur tous les points possibles. On a interrogé ses proches parents, ses amis, on l'a mis sous surveillance nuit et jour. On a vérifié ses antécédents et examiné le profil des gens qui travaillaient pour lui.
Burgess avait un passé intéressant selon l'agent spécial Herb Hawkins.
C'était un immigrant hongrois qui s'était mis les soviétiques à dos pendant la Révolution hongroise. Il s'était retrouvé dans un camp de travail où il avait manipulé beaucoup d'explosifs.
Lors de nombreux interrogatoires, les agents apprirent que Burgess avait des ennuis financiers. En mars 1980, le ministère du Revenu avait intenté une poursuite contre lui pour le défaut de paiement de 34 000 dollars en impôts. Il devait également 15 000 dollars au Harvey's Casino pour des dettes de jeu.
Les dettes de jeu dont il nous a parlé et qu'on avait déjà notées en vérifiant dans les registres du casino n'en faisaient qu'un suspect encore plus intéressant. Depuis le début, on croyait que le type qui avait fait ça en voulait au Harvey's Casino et qu'il lui devait de l'argent ou qu'il en avait beaucoup perdu à cet endroit. Cela correspondait donc parfaitement au profil qu'on avait dressé de l'auteur de cette bombe.
Les agents croyaient que John Burgess avait les connaissances requises et le mobile pour attaquer le casino. Maintenant, il devait en faire la preuve.
Un agent et moi-même avons été assignés à contacter M. Burgess tous les jours, 7 jours par semaine. On lui rendait visite et on lui parlait. On voulait l'amener à parler.
Certains jours, il hurlait et ne voulait pas nous faire entrer chez lui, alors que d'autres jours, il nous faisait entrer et acceptait de nous parler.
Burgess était très égocentrique. Il aimait parler de sa fructueuse entreprise d'aménagement paysager et de ses connaissances en électronique. Les experts ne s'étaient pas trompés.
Les choses se mettaient peu à peu en place relativement à ses antécédents. Maintenant, on devait découvrir où, à Fresno, il avait pu construire l'engin explosif et acheter les composantes requises.
Lors d'un attentat à la bombe, la première chose que l'on fait, c'est de voir s'il y a eu des vols dans la région et d'où les composantes de la bombe viennent. Les suspects peuvent les avoir construites, les avoir volées ou les avoir achetées. On commence donc par vérifier les rapports de vol.
Les agents apprirent qu'on avait volé environ 500 kilos de dynamite sur un chantier de construction près de la maison de Burgess, peu de temps avant l'attentat à la bombe au casino.
Le puzzle commençait à prendre forme. Il était maintenant temps d'amener les proches du suspect à nous parler.
Les agents interrogèrent un des membres éloignés de la famille de Burgess qui était propriétaire d'une importante ferme d'élevage de dindons près de Fresno. Ils étaient particulièrement intéressés par les interrupteurs sur son appareil de distribution de moulées, construit par Burgess lui-même.
Il avait été construit selon le même modèle que la bombe. C'était le même type de plastique utilisé et les soudures étaient identiques elles aussi.
Les agents exercèrent de la pression sur les fils de Burgess et ils parvinrent finalement à les convaincre de parler.
Les versions des deux fils étaient identiques. Leur père leur avait demandé de participer à cette tentative d'extorsion. Les deux fils n'étaient pas très excités par cette idée. Ils auraient préféré ne pas le faire. Mais ils devaient respect à leur père. Et ils l'ont aidé à quelques reprises.
Un des fils de Burgess reconnut qu'il n'avait jamais fait la culture de marijuana. Il avait inventé cette histoire pour protéger son père. Le FBI apprit ensuite que deux employés de Burgess avaient livré la bombe au Harvest Casino. Les fils du suspect ajoutèrent que c'était la petite amie de leur père qui avait rédigé la lettre d'extorsion. Ils indiquèrent ensuite aux autorités l'endroit où leur père avait caché le reste de la dynamite qu'il avait volée.
Ils nous ont également fourni de l'information sur d'autres vols d'explosifs qui avaient été commis sur le même chantier et nous ont dit où ces explosifs avaient été enterrés. Près de 300 kilos de dynamite avaient été enterrés dans le lit asséché d'un ruisseau près de Fresno. Monsieur Burgess avait dit à ses fils qu'il comptait construire une autre bombe et la poser à un autre endroit.
Le 16 août 1981, John Burgess fut arrêté alors qu'il quittait sa maison. Burgess et ses complices furent accusés de tentatives d'extorsion et de complot. Les fils de Burgess plaidèrent coupables et écopèrent d'une sentence de liberté surveillée. Le 15 avril 1985, John Burgess fut reconnu coupable et condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Le FBI a perdu un immeuble. Mais l'opération a été réussie. Il n'y a pas eu de perte de vie et l'on a capturé l'auteur de la bombe avant qu'il ne récidive.
On en a appris beaucoup à propos des attentats à la bombe sur de gros immeubles. On sait maintenant ce qu'il faut faire en premier lieu, en second lieu et en troisième lieu. On connaît les dangers que cela représente. Malheureusement, depuis cet attentat, on a eu l'occasion à quelques reprises de mettre nos connaissances à profit à travers le monde, aussi bien que d'en acquérir de nouvelles.